c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier régional, élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Charente sur langélis.com.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Et merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. Des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et soyez donc les bienvenus dans cette émission inédite de Chute, on écoute la télé avec aujourd'hui un sommaire qui va vous proposer deux coups de cœur ciné cette semaine avec pour commencer le film Adam. Mariam Touzani va être notre invitée d'ici quelques instants et puis nous allons avoir le plaisir de recevoir aussi Ludovic Colbeau-Justin et Anne Serra pour le film La sortie du lion. Au programme aujourd'hui également, nous allons avoir le plaisir de retrouver Alessandra Sublet qui nous présentera l'émission Star à nu, ça sera vendredi soir sur TF1. Et puis nous aurons aussi le plaisir de recevoir aujourd'hui Hélène Manarino qui va nous présenter l'émission Appel d'urgence sur TFX. Un beau sommaire qu'on va démarrer tout de suite avec les audiences de la semaine dernière comme d'habitude.
Les tops et flops d'audience.
Allez, dans les audiences de la semaine dernière, on va démarrer avec lundi, puisque lundi, il y avait Les Rivières Pourpres sur France 2. C'est un beau score avec 3 900 000 téléspectateurs et 16,8% de part de marché. Nous avons également Sam sur TF1 qui s'en sort pas mal avec 3 757 000 téléspectateurs et 16,3% du public. Marié au premier regard sur M6 s'en sort aussi pas trop mal avec 2 396 000 téléspectateurs et 11,6% de part de marché. Petit score pour France 3 et Secret d'Histoire avec seulement 1 851 000 téléspectateurs et 8,5% de part de marché. Mardi, il y avait La loi de Julien sur France 3 avec 3 677 000 téléspectateurs et 16,9% du public. Magnum arrive deuxième sur TF1 avec 3 326 000 téléspectateurs et 15,7% du public. Qui veut être mon associé sur M6 ne décolle pas, seulement 1 750 000 téléspectateurs et 9% de part de marché. Mercredi, il y avait New Amsterdam sur TF1 avec 3 739 000 téléspectateurs et 16,6% de part de marché. C'est en tête. Fête des gosses sur France 2 s'en sort pas trop mal avec 2 590 000 téléspectateurs et 11,5% du public. Un score en baisse par rapport à la semaine dernière malgré tout. Recherche appartement ou maison sur M6 s'en sort pas trop mal non plus. 2 384 000 téléspectateurs et 11,2% de part de marché. Jeudi, Peur sur le lac sur TF1 arrive largement en tête avec plus de 5 millions de téléspectateurs, certainement appelé fait chinois, avec 22,7% de part de marché. Envoyé spécial sur France 2, s'en sort pas trop mal pour l'anniversaire des 30 ans. 1 915 000 téléspectateurs et 10% de part de marché. Le film 36 Quai des Orfèvres d'Olivier Marchal fait 1 863 000 sur France 3 et FBI. Et petit dernier, ne décolle pas non plus sur M6 avec 8% de part de marché seulement. Vendredi, il y avait Diversion sur TF1, 15% du public et 3 millions 7 000 téléspectateurs, qu'un sur France 2 qui faisait son retour est au coude à coude avec 2 939 000 téléspectateurs. Les Enfants de la Musique sur France 3, 1 702 000 et La Grosse Rigolade sur C8 de Cyril Hanouna dépasse le million de téléspectateurs. Voilà pour les audiences de la semaine dernière. On va tout de suite démarrer notre premier coup de cœur ciné consacré au film Le Lion. C'est Ludovic Colbeau-Justin et Anne Serra qui débarquent tout de suite.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur cinéma cette semaine consacré au film Le Lion qui sort mercredi dans les salles. Et on est heureux aujourd'hui de recevoir le réalisateur qui est avec nous, Ludovic Colbeau-Justin. Bonjour Ludovic.
Bonjour, heureux d'être un coup de cœur, c'est super.
Et oui, c'est notre coup de cœur aussi cette semaine. Et Anne Serra qui joue une des héroïnes de ce film, pour pas dire l'héroïne du film.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Anne. Alors, un genre qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qui fait du bien, c'est le film d'espionnage comique. J'avais l'impression d'être un peu de retour au temps des Depardieu et Pierre Richard et de retrouver vraiment un duo improbable dans ce film où on passe vraiment beaucoup de temps aussi à rire.
Bah, c'est adorable, j'adore la référence. C'est effectivement ces duos-là, moi, ils ont baigné mon enfance. Donc si on a approché ce genre de duo, bah, j'en suis ravi. Bah. Et effectivement, moi, ça m'amusait beaucoup de faire un duo, une comédie. C'est d'abord une comédie, un truc de divertissement, mais d'y apporter un peu d'action, un peu de mouvement. Ouais, c'était le but du jeu et j'espère qu'on y est arrivé.
Alors l'histoire en quelques mots, pour démarrer.
Danny Boone est enfermé dans un asile psychiatrique qui prétend être un agent secret s'appelant Le Lion et travailler pour un réseau qui s'appellerait Constellation, voilà, une agence ultra secrète. Son médecin, qui est joué par Philippe Catherine, Romain Tardy, le prend a priori pour un mytho, mais il n'est pas désintéressé de son patient. Et puis arrive un événement majeur, sa femme, jouée par Anne, donc, se fait enlever, et Le Lion l'avait prévenu. Donc là, il se dit, comment je vais faire? La police ne veut pas intervenir, et il va voir Le Lion, et il lui dit, mais comment vous le saviez, hein, et comment je peux faire pour la retrouver? Il dit, je le savais parce que je suis agent secret, et pour la retrouver, si tu ne me fais pas sortir, tu n'y arriveras pas, tu peux aller prier. Il décide de le faire sortir de l'hôpital, et à partir du moment où il passe la porte, il va se demander s'il n'a pas fait la plus grosse erreur de sa vie. Voilà.
Alors, une scène incroyable qui démarre, mais sur les chapeaux de roue, parce que dès le début du film, on peut le dire, on est en train de vivre un moment fort, un tournage à Dubaï. Donc, il y a vraiment une partie du film qui a été tournée à Dubaï d'entrée, quoi, les premières scènes.
Ouais, absolument. J'ai ouvert le film à Dubaï, parce que, bon, donc, Danny prétend donc être un agent secret. On va le retrouver ensuite donc à l'hôpital, et il était très important de poser très rapidement le doute, c'est va-t-il être, parce que c'est un peu un dédoublement du film, c'est est-il espion ou n'est-il pas espion, c'est un fou ou pas un fou. Et donc en ouvrant comme ça à Dubaï, très nettement, on place le spectateur et on se dit, ok, je rentre dans un film d'espionnage, voilà les espions, on est dans James Bond, voilà. Donc, et on a ouvert à Dubaï parce que je voulais faire un énorme saut, par la fenêtre il y a un énorme saut, et qu'il n'y a qu'à Dubaï où on peut sauter de 400 mètres de haut sans qu'il y ait un mort en bas.
Au Burj Khalifa par exemple. Anne, quand vous avez lu le scénario, vous vous êtes dit quoi?
Alors j'ai lu le scénario en sachant que c'était Danny et Philippe qui allaient jouer, et déjà je me suis dit que c'était des magnifiques contre-emplois, et que c'était pas souvent qu'on offrait ça aux acteurs. Donc je l'ai lu en pensant à eux, c'était très jouissif. Et concernant mon personnage, déjà tout le film et enfin le scénario était dingue et hyper rythmé déjà à l'écriture. Et concernant mon personnage, je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses à jouer, ce qui est chouette pour une comédienne.
Alors on va retrouver Louise qui est donc la compagne du psychiatre. Et donc Louise a peut-être beaucoup de secrets qu'elle cache, en tout cas c'est ce qu'on verra au fur et à mesure du film. Mais quelle a été la scène pour vous, Anne, qui vous a peut-être le plus marqué au niveau du tournage?
La première, parce que je suis arrivée sur le tournage, on a fait la première scène entre Philippe et moi, donc j'arrivais, moi toute timide, face à Philippe qui n'a jamais le trac. Et surtout, je viens de me souvenir, c'était le jour où il allait au César, où il a reçu son César. Donc voilà, pour la petite anecdote, c'était une belle journée.
Ludovic, comment est née l'idée du scénario Le Lion? Comment est né un peu ce projet?
Alors, ce projet, il a été écrit par des scénaristes qui s'appellent Alexandre Coquel et Mathieu Lenaour, avec qui moi j'avais déjà travaillé sur C'est tout pour moi. C'était eux qui avaient adapté l'histoire de Nawel Madani. Et c'est eux qui ont pondu ça dans leur tête. Je sais même pas comment un jour ça leur est arrivé, parce que tout est sur un concept complètement dingue. Et très vite, on a reparlé, on a rebossé ensemble. Et voilà, et l'idée, c'était... Moi, ce que j'aime beaucoup... C'est le film, il est drôle, je crois. C'est ce duo comique est là, on le suit. Il y a l'action, donc pour un réalisateur, aller jouer toutes les scènes d'action, c'est un vrai bonheur. Et en même temps, il y a une vraie lignée sur les personnages. Il y a un vrai côté très humain sur qui on est, comment on peut devenir un homme, comment on est, comment on peut se relever de ce que la vie vous a fait, toutes ces choses-là. Et ça, c'était pour moi hyper important. Et je pense que c'est ça qu'on a essayé de travailler le plus avec les scénaristes, quoi.
Je suis le docteur Tardy.
Commencez par me dire comment vous appelez.
Léo Milan, nom de code Le Lion.
Léo Milan n'existe pas.
C'est ma couverture. T'es un Bambi, toi, quoi?
Tu crois vraiment que c'est un espion?
Ouais, justement, je sais pas trop.
T'as là une camionnette de fleuriste au cul. Soit elle va se faire enlever, soit elle va se faire buter.
Non mais flippe pas, mon amour, hein. Le mec se prend pour James Bond. Vous aviez raison, Louise a été enlevée.
Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait?
C'est pas ce que vous croyez, je vous ai injecté des amphétamines pour vous stimuler. Monsieur Milan! Monsieur Milan, concentrez-vous, monsieur Milan!
T'as la bonne, toi! Avec ce que tu m'as injecté dans le derche, j'ai le cul dans sa texan!
Je vais t'apprendre 2-3 moves pour te défendre. Ce coup, le coup du lion.
Tu les vois, mes pouces? Tu les vois?
Hop.
Ah! Espèce de malade mental!
Comment on en vient à créer ce duo totalement improbable entre Philippe, Catherine et Danny Boone?
aujourd'hui encore, c'est marrant parce qu'on me pose souvent la question et je me dis, mais en fait, quelle chance j'ai eue. Parce qu'en fait, c'est un rêve. Parce que vous êtes là parce qu'en plus, et Dany et Philippe ont répondu extrêmement rapidement. À la lecture du scénario, Dany a dû lire un lundi et le mercredi, on déjeunait ensemble et c'était oui pour le film. Et quand on a envoyé après le scénario à Philippe, il m'a dit un film avec Dany, il était ravi. Donc l'idée de faire un film avec Dany lui a plu. Et le soir, il l'a lu et le lendemain matin, il m'a dit mais pourquoi vous me proposez ça? C'est dingue. Et aujourd'hui, seulement, je réalise la chance que j'ai eue que les deux partent aussi vite. Et le duo, il s'est formé sur le plateau comme dans l'histoire. Les deux se connaissaient pas. Que se connaissaient bien sûr l'un l'autre, mais c'était jamais fréquenté. Et ils ont appris à se fréquenter, et je pense qu'on a gagné ça. C'est-à-dire que ça, leur générosité à l'un et à l'autre. Dany dit toujours, c'est la rencontre d'un ch'ti et d'un vendéen. Et je pense qu'il y a quelque chose, ces deux, ils sont extrêmement généreux, et ils se sont nourris l'un de l'autre. C'est-à-dire que moi, je suis de deux acteurs, je suis passé un duo très rapidement. Et c'est ça qui est génial, c'est quand ils sont ensemble, quoi. Voilà.
On arrive sur un plateau comme ça, parce que vous le verrez en voyant le film mercredi, c'est un film extrêmement audacieux, avec beaucoup d'action, beaucoup de beaux décors, beaucoup d'effets numériques. On peut appeler ça un film à un gros budget en France, parce que ça ne se fait pas souvent, et là on a des effets visuels qui sont très très bien faits. Quand on arrive sur une mécanique comme ça, sur un plateau comme ça, et qu'on voit le rendu après, parce que ça a été le cas par exemple, c'était une des premières projections au festival de Alpes d'Huez il y a quelques jours. Alors Anne, à la première projection, on se dit quoi? Parce qu'il y a une différence du coup entre ce qu'on tourne et ce qu'on voit.
Je trouve que c'est assez fidèle au scénario. Et quand on voit le film projeté avec le public sur grand écran, ben non, moi j'étais hyper fière et hyper touchée. Pareil, je réalise que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Et le tournage s'est super bien passé.
Notons Samuel Jouy aussi, avec qui vous avez beaucoup partagé de scène. Hein.
Oui, effectivement.
Il y a un super comédien aussi qu'on a pu voir dans Classe Unique, qui était tourné d'ailleurs dans notre région Nouvelle-Aquitaine il y a maintenant quelques mois, qui a été diffusé sur France 3. Et Samuel, il envoie quand même aussi. On va pas dire dans quel contexte, parce qu'on va spoiler.
Ouais, non, il envoie, il est très crédible et ça marche très très bien, je pense, toute cette partie du film.
Est-ce qu'un metteur en scène se met des freins à un moment donné, quand justement on est dans une mécanique comme ça, qu'il faut quand même tenir un budget? Est-ce qu'on se donne des freins sur certaines scènes, ou est-ce qu'on se dit voilà, on va essayer de mettre tous nos rêves en image?
Alors au départ, on essaye de mettre tous nos rêves en image, on essaye de pas perdre ça, et après, ce qui était, il y a un curseur sur ce genre de film qui est assez compliqué, et qui est en même temps le truc qui m'excitait un petit peu le plus, c'est de trouver justement l'équilibre entre j'avance avec ma narration et avec mes personnages, et j'ai mes scènes d'action, et elles font avancer, il faut absolument qu'elles fassent avancer l'histoire, il faut qu'elles participent, il faut faire attention, le curseur entre justement, je vous disais tout à l'heure, gros budget et je peux m'amuser, attention à pas trop jouer et à te nourrir
de... et à trop dépasser
pour ne pas servir. Je sais qu'il y a une scène, et je le savais un petit peu avant de tourner, il y a une énorme scène, une fusillade qui n'est plus dans le film, où je me suis amusé à tirer 10 000 cartouches toute une nuit. J'ai fini par l'enlever parce que voilà, on avait un peu trop joué, on s'était amusé. Et c'est ce curseur-là, action comédie, qui est toujours, c'est sur un fil, parce que si l'action est gratuite, ça sert à rien, voilà.
Vos projets pour la suite, Anne, est-ce qu'on va vous voir dans d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres films de prévu en télévision, cinéma ou au théâtre?
Il y a un projet de théâtre qui est en train de se construire. Pareil pour la télé-cinéma, on ne sait pas, on est en train de développer. Et puis sinon je suis ouverte à toute proposition.
Je suis sûr qu'il va y en avoir après ce 29 janvier. Ludovic, vous qui oscillez entre la télé et le cinéma régulièrement, est-ce qu'on a pu vous trouver à mise en scène de Piégé par exemple pour TF1? Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent comme ça en télé ou en cinéma?
Ouais, il y a des projets en télé, parce que j'aime aussi beaucoup la télé. C'est très différent du Lion. Le Lion, ça fait un an et demi que je suis dessus, et le cinéma n'a pas la même rapidité. Puis moi, étant très amoureux des plateaux, j'aime aussi beaucoup la télé. Je pense qu'on peut faire des choses super, et c'est, les délais sont plus courts. Et ça m'amuse beaucoup. Il y en a, mais très honnêtement, et j'ai d'autres projets aussi un peu en cinéma, mais là il me reste encore 48 heures d'apnée à attendre la sortie du film, et j'ai pas la cage. Je suis assez monotache, donc je suis encore très dans le Lion. Je vais l'être encore un petit peu pour un moment, je crois.
Eh bien, on ne le rate pas. En tout cas, le Lion, ça sort mercredi au cinéma. Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous voir, et je vous dis à très vite.
Merci beaucoup.
Merci.
Et on va se quitter avec la bande-annonce.
Ah bah oui, bien sûr.
À bientôt.
À bientôt.
À toi. Hey, c'est pas haut. Allez. Oh, comment tu t'es fracassé.
Oh, Vous n'êtes pas un espion.
Règle numéro 1, ne jamais se fier aux apparences.
Arrêtez à la fin.
Règle numéro 2, ferme ta bouche, t'auras chaud aux dents.
Mais vous êtes sûr de vous, là?
Je l'ai déjà fait en Indo.
L'Indochine, c'était les années 60. Vous n'étiez même pas né.
Qu'est-ce que t'en sais?
Esquive du crabe.
Tu es sorti de l'asile ou quoi?
Ça va pas, non?
C'est con, mais que trop d'étonnes. Rendez-vous, vous êtes cerné. On est deux, on n'est pas armé.
Allez, on se retrouve dans un instant avec Hélène Manarino. Nous recevons Alessandra Sublet également et Mariam Touzani pour le film Adam. Alors surtout, ne bougez pas, on revient juste après ça.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite.
On est vraiment bien sans
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Indiscrétion, scoop,
scoop,
news, tout de suite, l'infomédia.
Allez, tout de suite, l'infomédia de cette semaine. Jérôme Fouquet, directeur général de W9 et de Sister, accorde une interview à Média Plus. L'occasion pour lui de faire le point sur les nouveautés qui seront présentes sur les antennes cette année. Et concernant les séries réalité, il indique que bientôt les téléspectateurs découvriront les Marseillais Caraïbes, qui laisseront ensuite leur place à une nouvelle saison des Apprentis Aventuriers. Sur cette émission, le contenu et l'incarnation vont évoluer, notamment d'un commun accord avec W9. Moundir arrête d'en être l'animateur principal après 4 saisons. Très réussi, a déclaré Jérôme Fouquet en indiquant que l'animateur souhaite se consacrer pleinement à de nouveaux projets. Il est pour beaucoup dans le succès de l'émission, a-t-il continué. La suite du film Il a déjà tes yeux, portant le même titre. Plusieurs années ont passé depuis que Sally, Aïssa Maïga et Paul Aloka, Lucien Jean-Baptiste, un couple noir, ont adopté Benjamin, un enfant blanc. Eh bien, cette série débarque sur France 2 le 12 février prochain, en format de 6 x 52 minutes. Alors si Benjamin a grandi, c'est aujourd'hui un adolescent qui a dû accueillir un an après son adoption un petit frère prénommé Noé, enfant biologique du couple. Noé est noir, évidemment. Les deux frères sont en tout l'exact opposé. Benjamin est aussi déconneur que Noé, sérieux, aussi sportif que l'autre est intello. Alors, cette série est créée justement par Lucien Jean-Baptiste et Sébastien Mounier et réalisée par Lucien Jean-Baptiste. On y retrouvera au casting notamment Ariel Mallet, Michel Iri, Joachim Sig, Louis Durand, Marie-Philomène Enga, Delphine Théodore ou encore notre amie Sarah Mortensen. Une série à ne pas manquer. Le journaliste Il Calvi pourrait arriver en prime sur C8 à partir d'avril pour animer une émission d'information avec reportage et débat sur l'actu internationale. Celui qui est la vedette des matinales de RTL a en effet imaginé une nouvelle émission qui serait composée d'un grand reportage réalisé par ses équipes. Puis la diffusion serait suivie d'un débat en plateau avec plusieurs spécialistes, selon Le Parisien qui donne l'information. La diffusion de ce programme est donc prévue à partir du mois d'avril prochain, après les élections municipales, mais le jour de diffusion n'est pas annoncé dans l'immédiat. On peut imaginer qu'il pourrait se retrouver en prime le mercredi soir dans la case info et reportage de C8 qui est pour l'instant occupé par le magazine Enquête sous tension. À partir de la fin du mois jusqu'au 27 avril prochain, je te promets, l'adaptation française de la série américaine This Is Us va être tournée chez nous en partie en Nouvelle-Aquitaine à La Rochelle et à Paris. Cette série sera composée de 12 fois 52 minutes et va être mise en boîte par Authentic Prod. Au casting, on pourra retrouver Camille Lou, Hugo Becker, Marie-Lou Berry, Guillaume Labbé ou encore Marc Rizzo, Nathalie Roussel, Patrick Chenet, Bruno Sanchez et bien d'autres. Paul et sa femme Florence attendent avec impatience sa naissance de leur triplé. De leur côté, Mathis, un trader comblé, vient de retrouver son père biologique, mais hésite à ne rencontrer Maude, une jeune femme en surpoids, n'arrive pas à maigrir et cherche un sens à sa vie. Et Mickaël, footballeur d'un gros club de Ligue 1, voit sa carrière stoppée après un incident malheureux. Alors que Paul, Mathis, Maude et Mickaël fêtent leurs 37 ans, ils vont faire face à des choix importants qui vont bouleverser leur vie. La série s'installe au cœur d'une famille pas comme les autres pour vivre avec eux leurs peines, leurs doutes, mais aussi leur joie. Cette série prévue sur 3 saisons minimum arrivera donc sur TF1 à la rentrée. Et la bonne nouvelle, c'est Netflix qui va gonfler sa production de séries et de films en France, où la plateforme américaine développera en 2020 une vingtaine de projets, a-t-elle annoncé vendredi, à l'occasion de l'inauguration de ses nouveaux locaux à Paris. Parmi les nouveaux projets dévoilés, en présence du patron du groupe Reed Hastings et un parterre invité, plusieurs font appel à des talents reconnus du cinéma et du paysage audiovisuel français. Ils incluent Big Bug, un film de Jean-Pierre Jeunet, cette comédie futuriste comptera dans son casting, notamment Elsa Zilberstein, Isabelle Nanty, encore Manu Payet. La scénariste Fanny Herrero, également à qui l'on doit la série de France de 10%, prépare quant à elle une série en 6 fois 52 minutes sur de jeunes comédiens qui veulent percer sur la scène parisienne du stand-up. Et la série Fantastique Mortel connaîtra une deuxième saison. Et Julien Leclerc, le réalisateur de Braqueur, réalisera un film d'action Sentinelle notamment. Ces nouveautés s'ajoutent à des productions françaises déjà annoncées, dont la diffusion est prévue en 2020, comme la série Arsène Lupin avec Omar Sy ou la série musicale de Damien Chazelle, The Eddy. Alors pourquoi 10% justement s'arrête cette saison? Si les acteurs veulent être augmentés, les budgets sont trop faibles, les intrigues difficiles à renouveler, eh bien la série de 10% de France 2 s'arrête cette saison. La quatrième sera donc la dernière diffusée cette année. Michel Feller, un des producteurs de la série, a raconté à nos confrères de Allociné pour quelles raisons le programme s'arrête cette année. Économiquement, on arrive au bout. Malgré le succès incroyable de la série, nous n'avons aucun bonus. On reste dans une économie de service public avec de petits moyens. On est au tiers du budget d'une fiction anglo-saxonne, a-t-il dit, pour vous rendre compte de la différence. Camille Cotin a gagné en notoriété en quelques années. Quand on augmente raisonnablement des acteurs qui sont tous devenus des stars, c'est tout à fait logique de les augmenter. En plus du nombre de plans en extérieur plus important pour cette saison suite au départ de Mathias Daeska. Au terme, ce n'était donc plus viable. Dominique Besnéard songe malgré tout à la possibilité d'un unitaire bonus à l'instar des séries britanniques.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et c'est un au revoir pour la série Sam qui clôt sa quatrième saison ce soir sur TF1. Sam est perdu dans sa relation avec Antoine tandis que Xavier met son couple en péril. Tout de suite extrait juste après, c'est Hélène Manarino qui nous rejoint.
J'ai besoin d'être seule.
Lundi prochain, deux épisodes inédits de Sam.
Tu peux pas la laisser faire ça, tu peux pas la laisser prendre papa, c'est pas possible.
On est toujours mariés.
Plus pour longtemps.
Ça je sais pas ça.
Confisqué.
Mais non mais oh.
Vous savez que votre fils est en train de devenir complètement accro là.
Ça vous regarde pas.
Oh mon coco, si tu savais comme ça me regarde.
Je suis bancale, Antoine. Et un jour, t'en pourras plus.
Il a enfin vu qui vous étiez vraiment.
Qu'est-ce qui se passe, maman?
Je veux plus jamais te voir ici. Dégage.
Bon, journée de merde, hein.
Je crois bien.
Et on va commencer nos coups de cœur télé de cette semaine. Avec ce soir sur TFX, un nouveau numéro d'appel d'urgence. Accident et tension extrême, le SAMU de La Rochelle sous pression. Et ça tombe bien, c'est dans notre région. Et en plus, comme un bonheur n'arrive jamais seul, nous avons l'animatrice du programme qui est avec nous, Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Appel d'urgence sur TFX, un programme qui dure maintenant depuis quelques années, qui marche plutôt bien puisqu'il est toutes les semaines à l'antenne. Et là, c'est dans notre région que ça se passe en Nouvelle-Aquitaine. Ce soir.
Exactement, ça fait. C'est un programme qui existe quand même depuis plus de 20 ans, qui se renouvelle d'année en année. C'est un programme, moi, que je suis très fière de porter depuis maintenant presque 2 ans. Voilà, donc c'est vraiment mettre en avant ce qu'on nomme nos héros du quotidien, avec chaque semaine des profils très différents, des régions différentes. Et là, ce soir, le SMUR de La Rochelle. Donc voilà, donc c'est chouette.
Quel est le principe justement d'appel d'urgence pour ceux qui n'ont jamais vu le programme? Qu'est-ce que tu leur dirais, Hélène, pour leur donner envie de ce soir se brancher sur TFX?
Alors, appel d'urgence, c'est une émission. On aime bien comparer ça à une série, c'est-à-dire qu'on démarre l'épisode d'appel d'urgence et on n'arrive pas à lâcher. Du moins, j'espère. Ce qu'on a envie de faire avec cette émission et ce qu'on fait, c'est mettre en avant nos héros du quotidien. Donc, ça va être les pompiers, évidemment, le SAMU, la police, ceux qui sont vraiment aux côtés des gens qui en ont besoin aussi, déjà, dans un premier temps, notamment avec les pompiers. Et puis, on suit leur parcours, leur quotidien, leur travail, quand ils sont appelés pour aider les gens, quand ils sont en intervention, quand ils sont en train de démanteler aussi parfois un trafic de drogue. Et on suit vraiment tout ça pendant 50 minutes. Et puis aussi, il y a l'aspect, et moi qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect humain, puisque ces gens-là ont... On les découvre aussi, on va s'intéresser par exemple à un pompier qui vient de démarrer, qui a six mois de carrière, et on va également suivre un autre pompier qui a 35 ans de carrière. Comment ils vivent tout ça aussi? Parce que pour eux, voilà, ils sont confrontés à des situations extrêmement différentes, et puis ça reste des êtres humains, ils ont une vie de famille, ils partent de chez eux le matin. ils ne savent pas comment la journée va se passer aussi, comment leur journée va se passer. Donc c'est tout ça, on est vraiment dans le quotidien à la fois des Français, voilà, et dans le quotidien de ces héros du quotidien, justement.
On peut interpréter justement le titre de l'émission de deux façons. Appel d'urgence, ben effectivement, c'est les urgences quand on appelle le SAMU, etc. Appel d'urgence, ça peut être aussi justement l'urgence dans laquelle ils travaillent, les difficultés auxquelles ils doivent faire face tous, parce que c'est des métiers aujourd'hui, que ça soit les pompiers, le SAMU, l'hôpital, on connaît aujourd'hui toutes les difficultés auxquelles ils doivent faire face, et c'est ça aussi qui est bien de mettre en avant dans l'émission.
Exactement, ils sont donc être réactifs évidemment, et puis quand ils sont appelés par exemple pour une intervention, quelle qu'elle soit, quand ils vont par exemple ils poussent la porte d'un appartement, ils ne savent pas ce qu'ils vont voir à l'intérieur. Quand c'est, on est 4 heures du, il est 4 heures du matin. Ils se disent à 4 heures du matin, on doit aller chercher un jeune homme parce que voilà, trafic de stupéfiants ou démantèlement d'un réseau. Ils savent pas. Ils savent pas. Ils savent pas si la personne derrière la porte va être armée ou pas. La réaction, s'il y a les parents, s'il est seul. Donc il y a tout ça aussi qui peut être dangereux aussi et qui donne beaucoup d'adrénaline. Et puis aussi les gens qui sont dans des situations parfois très délicates, des situations d'urgence, comme vous l'avez dit, où bien il faut être très réactif et ils viennent en 5 minutes pour aider justement ces gens-là qui en ont besoin. Donc ça, si vous voulez, c'est une émission qui regroupe énormément de choses, énormément de profils différents, d'histoires. Et souvent, moi, on me dit, oui, mais les magazines d'action, c'est souvent la même chose, on voit toujours les mêmes histoires, c'est les pompiers, c'est le SAMU, mais moi je réponds souvent bah oui, mais bon, par exemple je prends mon cas, on est beaucoup de journalistes et on fait notre métier de manière différente, on a chacun des personnalités, on a des sensibilités différentes aussi, et ces gens-là c'est la même chose, donc c'est pour ça que les émissions ne se ressemblent pas, les parcours de chacun ne se ressemblent pas, les interventions ne se ressemblent pas, c'est pour ça que ça reste une émission qui marche et qui est aussi un peu addictive.
Est-ce qu'il y a des équipes qui ont eu du mal, peut-être, à se laisser décider, à se laisser suivre, comme ça, par les caméras?
Alors, oui, alors, eu du mal. Les journalistes qui partent sur le terrain, faut savoir quand même qu'ils partent pas, ils arrivent pas avec leur caméra en mode on arrive, le micro, etc., la caméra, et puis on vous suit. Non, il y a des demandes d'autorisation aussi, parce que c'est normal.
Ça arrive en équipe légère, généralement.
Il y a un premier contact, un deuxième contact, des contacts qu'on entretient toute l'année aussi. On garde contact avec les professionnels des urgences qu'on a pu suivre, avec les pompiers, avec la gendarmerie, etc. Et il y a aussi un respect. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va prendre un exemple, le SMUR de La Rochelle, l'émission de ce soir, ils nous disent oui, vous pouvez nous suivre, d'accord, mais il y a un respect aussi, il y a une certaine pudeur à respecter, c'est pas du voyeurisme, on n'est pas dans la recherche toujours de la bonne séquence, vite faut qu'on montre, il y a un accident, ah super, ça fait, non, encore une fois, c'est une émission qui met l'humain en avant, donc on respecte l'humain jusqu'au bout, même dans la construction de l'émission. Et il y a vraiment un respect de ça, de la part des équipes d'appel d'urgence qui partent. Elles partent, par exemple, pendant un mois. Elles reviennent parce que soit un peu plus calme, soit c'est pas le moment de tourner. Ils vont revenir à un autre moment aussi. Des tournages peuvent durer 6 mois. Enfin, une émission, en tout cas, ça peut durer 6 mois avant d'avoir une émission qu'on peut, entre guillemets, monter et montrer à l'antenne.
Il y a déjà eu des tournages qui ont dû être interrompus ou arrêtés par une situation de danger immédiate pour l'équipe, par exemple, ou les gens qui étaient accompagnés.
Alors ça, je ne sais pas si une émission a pu être interrompue. En tout cas, je sais que les équipes d'appel d'urgence ne se mettent. Le but, c'est que personne ne se mette en danger. Que ce soit les journalistes, que ce soit les pompiers, les urgentistes, la police, que ce soit même les personnes qui ont besoin d'appeler, qui sont dans le besoin, on évite le danger. Ça reste quand même, ça reste quand même une émission. Enfin, il y a toujours un petit risque quand même, parce que comme vous l'avez dit, ça va très très vite. C'est des interventions parfois qui sont compliquées, donc il y a toujours cette petite chose, cette petite appréhension. Mais nos équipes sur le terrain, ce sont des équipes professionnelles évidemment, et donc le but c'est que tout se passe très bien pour en tout cas les journalistes et les gens qu'on suit.
On va suivre en tout cas cet appel d'urgence, c'est ce soir sur TFX. Ça s'intéressera aux urgences notamment de La Rochelle. On pourra voir Dragon 17 en action, ça sera l'occasion. Merci de mettre en lumière en tout cas nos héros du quotidien, et notamment nos héros du quotidien en Nouvelle-Aquitaine et en Charente-Maritime plus précisément. Merci Hélène.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À très bientôt.
On a environ une demi-heure critique où il faut qu'on agisse au maximum.
Inédit, embarqué pour des missions à haut risque. Avec des urgentistes hors du commun.
Ce sont les médecins de La Rochelle. Leur signe particulier, ils interviennent aussi bien à terre que sur mer.
En hélicoptère, pour des sauvetages périlleux en pleine mer. Sur les routes, pour des accidents aussi graves qu'impressionnants.
Quand on est bien loin des conditions du bloc opératoire, où tout est beaucoup plus simple.
Inédit, appel d'urgence, présenté par Hélène Manarino. Lundi à 21h sur TFX.
Et demain sur France 2, eh bien le documentaire d'Ilan Ziv, Antisémitisme. Depuis quelques années, les actes antisémites sont en recrudescence et certains parfois meurtriers. Ce film examine les différentes formes d'antisémitisme depuis l'affaire Dreyfus jusqu'au meurtre de Mireille Knoll en 2018, démontrant comment les vieilles haines sont instrumentalisées en France et en Europe. Une enquête passionnante. Tout de suite un extrait.
Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker. Sous les décombres de Berlin. On espère alors que le projet d'une Europe sans juifs disparaît avec lui. Pourtant, l'antisémitisme lui a survécu. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, il faut remonter le temps. C'est ici, dans la cour de l'école militaire, que commence notre enquête. Les idées génocidaires ne sont bien sûr pas nées ici. Mais c'est là que, pour la première fois en Europe occidentale, l'antisémitisme est encouragé par un État. L'opinion publique va s'en emparer.
Et demain sur France 3, rediffusion du téléfilm « Meurtre en pays d'Oléron » de Thierry Benisti avec Hélène Cesaré et Michel Simès qui faisait ici ses premières armes de comédien.
Un meurtre en pays d'Oléron et France 3 fait appel au meilleur.
On s'est pas présenté ?
Non. Docteur Vincent Lazare, médecin légiste. Vu la plaie, c'est une lame courbe, genre détroqueur.
Genre quoi ?
Mais devenir enquêteur ne s'improvise pas.
Vous voyez la voiture là derrière ? Ne vous retournez pas. Bonjour la discrétion.
Heureusement, Michel Simès apprend vite.
On nous observe. Ne vous retournez pas.
Très vite.
Peut-être pas exagérer quand même.
Meurtre en pays d'Oléron. Faites confiance aux spécialistes sur France 3.
Et mercredi, France 2 rediffuse le téléfilm Flic tout simplement de Yves Régnier avec notamment Mathilde Seignier qui avait enquêté bien sûr le meurtre d'une victime du tueur de l'Est parisien. Le commissaire Monteil traque ce tueur en série. Une enquête passionnante réalisée brillamment par Yves Régnier.
La plus célèbre traque jamais organisée.
Martine,
il a recommencé.
On a une nouvelle victime. Toujours dans le même quartier, l'Est de Paris.
Même mode opératoire, violé, égorgé, et cette position très particulière du cadavre.
Votre type est identifié.
Je retrouve son ADN sur 2 tentatives d'homicide et 3 viols. Ça porte le compte à 10 victimes.
Guy Georges. Il s'appelle Guy Georges.
Serrez ce mec au plus vite. Sinon je vous éjecte.
Le tueur de l'Est parisien. Maintenant, c'est lui la proie. Avec Mathilde Seignier, Philippe Torreton et Yves Régnier sur France 2.
Et mercredi, l'événement, c'est aussi sur W9 avec un documentaire exceptionnel. 2050, déchets, peut-on encore éviter le pire ? Si la prolifération de détritus en France est évoquée et anticipée pour 2050, Paris serait recouvert d'ordures. Certaines villes seraient contaminées par des résidus toxiques et la pêche serait interdite à cause des déchets plastiques. Une enquête passionnante. Voici tout de suite un petit extrait en avant-première.
Depuis plus de 30 ans, nous vous faisons voir le monde.
C'est incroyable, ça!
Un monde à protéger.
Dans notre pays, on produit environ 1 milliard de tonnes de déchets chaque année.
Tout ça, ça part à la poubelle.
Et on marche sur la tête, quand même.
Oui, mais on marche sur la tête.
Mais alors, à quoi ressemblera notre planète en 2050?
Nous sommes mobilisés avec vous.
Comment sont traités les déchets que vous jetez dans la fameuse poubelle jaune ?
Faire entrer l'écologie et le développement durable dans les mentalités des plus jeunes.
Ces préoccupations touchent de plus en plus les Français.
Il faut vraiment agir vite.
Il y en a deux partout.
Parce que l'avenir, il est là. Il est là l'avenir.
Allez, on passe à nos coups de cœur pour jeudi. C'est le grand retour de la série Bunch sur TF1. On va retrouver une Isabelle Nanty encore plus en forme que jamais. Au casting, Lucien Jean-Baptiste, Aurélien Wick et Tom Villa. Et si Hubert s'est fait renverser par une voiture dans ce premier épisode, il va s'en sortir. Rassurez-vous, voici tout de suite un extrait.
Ah ! Tu m'as fait peur. Et dis donc, tu sais parler aux femmes, toi, hein ?
Tu nous as fait peur, tu sais. Hein ?
Ouais. Il t'a déboîté la mâchoire, le mec. Tu sais qu'ils t'ont anesthésié, là. C'est pour ça que tu sens rien, hein, pour la claque. Eh, si je tombe sur celui qui a failli t'envoyer à de patresse, je peux te dire que je te le... Quoi ? Là, tu veux la bouteille, là ? Attends. Attends. Il veut me montrer quelque chose, je crois. C'est ça que tu veux ? Ah ! De l'autre côté. Là, par ici, je chauffe, là.
Mmh. Oui.
Oui. Ok. Quoi? Alors, tes chaussures? Hein? Mmh. C'est pour moi? Oui, il est comme ça, notre Hubert. Même plâtré de la tête aux pieds, il pense aux autres. Merci. C'est quoi? Le comte de Monte Cristo, et en plus il y a une dédicace, merci.
Et jeudi sur Arte, ça sera le final de la série Escale Fatale, la série irlandaise qui va se clore. Et la police est toujours à la recherche du mystérieux endroit où se rend Abeni. Et dans le même temps, à la maison close, Marvelous demande à Benjamin de lui faire un enfant. Peu après, celui-ci fait une offre à Abeni, des épisodes poignants et captivants. Et l'ensemble est à la fois très sombre et glaçant. Une série à ne pas manquer sur Arte, donc jeudi à 20h55.
Escale fatale.
Pour le mandat, on fera valoir une enquête sur un trafic sexuel.
Pas sur un meurtre?
On a quoi comme preuve? On n'en a pas.
On passe pour les rois des débiles.
On a un problème.
Où est la fille?
Apparemment, elle était enchaînée ici.
C'est bien lui, non?
Ouais, c'est gros pervers.
Je sais pas qui vous protégez, mais ils attendront pas 5 ans que vous sortiez de prison.
Il nous faut un coupable et il faut le trouver très rapidement, vous comprenez ça?
Escale fatale. Suite et fin, jeudi à 20h55. L'intégrale est déjà en ligne.
Et on passe à vendredi sur France 3, les 60 ans du One Man Show. Humoristes d'hier et d'aujourd'hui se succèdent dans ce documentaire qui évoque le One Man Show et son évolution. Le pionnier fut Fernand Reynaud en 59, suivi de Robert Lamoureux, Raymond Devos, Pierre Desproges. Et du côté des femmes, c'est Jacqueline Maillan et Sylvie Joly qui ont ouvert la voie. Un inventaire bien réalisé, bien illustré sur des champions du rire. Voici tout de suite un petit extrait. Juste après, c'est Alessandra Sublet qui nous rejoint.
Il y a 60 ans, les Français découvraient un nouvel art majeur. Le One Man Show. Depuis, l'histoire d'amour entre le public et ses génies de l'humour ne s'est jamais démentie.
Histoire, mon mec.
Quoi, formule? Menu! Formule, t'es du menu, comme tout le monde!
Pour célébrer ces artistes de légende et leurs sketchs devenus mythiques, nous allons nous replonger dans 60 ans d'humour en compagnie des plus grands noms de la scène française.
Quand j'avais 16 ans, je disais à ma mère « Maman, tu sais, je suis amoureuse de ce garçon, mais t'inquiète pas, je te promets, je vais pas coucher avec lui. » Mais les ados d'aujourd'hui disent « Maman, j'ai couché avec lui, mais t'inquiète pas, je l'aime pas. »
Allez, coup de cœur télé consacré cette semaine eh bien, à Star à nu, vendredi sur TF1. C'est le lancement de ce programme événement avec Alessandra Sublet aux commandes. Bonjour Alessandra.
Salut.
Merci d'être avec nous. Star à nu, c'est 15 célébrités qui vont se mettre à nu pour une bonne cause. Et ça, c'est important aussi, voilà, que TF1 en prime time puisse mettre cette cause en avant.
C'est deux primes, effectivement, le 31 janvier et le 7 février. Donc, il y a un premier prime avec
les garçons,
exactement. Donc, pour sensibiliser les garçons au cancer du testicule et de la prostate. Et en fait, le concept, c'est de recruter ces hommes. Évidemment, ces personnalités connues qui vont apprendre à faire une choré avec Chris Marquez. Et l'idée, c'est qu'à la fin du programme, ils se mettent à nu sur la scène du Lido. C'est un prétexte parce que finalement, tout au long de ce magazine, documentaire, divertissement, je sais même pas comment l'appeler parce que c'est un ovni, eh bien, tu vas te rendre compte de l'importance d'aller se faire dépister du cancer du testicule et de la prostate, notamment avec un témoignage de Jean-Pierre Pernaut qui est assez touchant parce qu'il a eu le cancer de la prostate. Et puis voilà, on les a emmenés dans des recoins d'eux, je pense, qu'ils ne connaissaient pas. Et je trouve génial que TF1 prenne le risque et en même temps de le mettre en prime time à une heure de grande écoute.
C'est clair. Alors c'est les garçons, donc vendredi pour commencer. Quels sont les artistes qui ont participé?
Alors t'as Bruno Guillon, Baptiste Jabiconi, Olivier Delacroix, Alexandre Devoise.
Il y a des gens de tous les horizons, hein, vraiment cinéma, musique, télévision, tu retrouves des personnalités de tous horizons.
Oui, il fallait que ce soit assez large et en fait tu vas découvrir qu'ils ont tous un lien malheureusement avec le cancer dans leur entourage très très proche et c'est l'une des raisons pour laquelle ils font aussi cette émission, c'est que pour certains, ils le disent très bien d'ailleurs, s'ils avaient été sensibilisés à cette cause-là plus tôt, peut-être qu'ils auraient poussé les proches qui ont été atteints d'un des deux cancers à se faire dépister. Nous, l'idée, c'est qu'à la fin de cette émission, de ces deux émissions, si on a sauvé au moins une vie, on a gagné. Si les gens ont décidé d'aller se faire dépister à la fin de ces émissions ou le lendemain, on a gagné. C'est important.
Exactement. Et la semaine d'après, donc dans une bonne dizaine de jours, le vendredi 7, ça sera les filles. Et là, ça sera pour le cancer du sein. Là aussi, on a beaucoup parlé, évidemment, en octobre, hein, avec Octobre Rose. Et là aussi, il faut sensibiliser, effectivement.
Oui, c'est vrai, parce que en fait, le cancer n'a pas d'âge, n'a pas de religion, n'a pas de couleur de peau, et ça touche tout le monde. Et c'est vrai que dans le programme, il y a Héloïse Martin, il y a Fanny Leb, la fille de Michel, qui a eu le cancer du sein, il y a Maréva Galanter, Marine L'Orphelin, et toutes ces femmes, en fait, ont une raison, encore une fois, de se mettre en avant pour cette cause-là, et pour expliquer aux femmes que quel que soit l'âge qu'elles ont,
elles doivent aller se faire dépister. Il y a un formidable témoignage aussi de Claudia Tagbo qui explique ce par quoi elle est passée, parce qu'elle a eu le cancer du sein. Et il faut aujourd'hui qu'on parle du cancer comme on parle d'une grippe, parce que d'abord le cancer est meurtrier, mais parce que si on le démocratise, on aura moins de tabous à en parler. Et c'est pour ça que cette émission a de vraie valeur et que moi me tient à cœur, parce que il faut y aller.
Il y a un cancer dépisté tôt, c'est plus de 3/4 de chance de le guérir.
Exactement.
Je vais même le dire.
Mais c'est hyper important, parce que la plupart des cancers dépistés à temps peuvent se soigner. Et donc, encore une fois, c'est pour les garçons comme pour les filles. Vous allez voir, dans le programme, on apprend par exemple la palpation du sein ou la palpation des testicules pour les garçons. Ça paraît bête, mais ça peut être aussi un premier signe si on sent quelque chose. Donc, faut juste se prendre en charge et se dire que la personne avec laquelle vous allez passer 100% de votre temps, c'est vous-même. Alors, prenez soin de ce qui vous sert de bouclier pour la vie, quoi.
Exactement, la vie est trop courte. Alessandra, tu t'es dit quoi quand on t'a proposé d'animer ce programme ?
Moi, je me suis dit que ça avait tellement de sens et que c'était tellement bien qu'une grande chaîne nationale comme TF1 la mette en prime time que c'était difficile de dire non. Et à tel point que pour les filles, je fais l'exercice avec elles jusqu'au bout, donc je vais me mettre à nu sur la scène du Lido. C'était compliqué de les convaincre et de pas aller au bout. Donc c'est Arthur qui produit, et encore une fois, bien lui en a pris, parce que c'est un programme qui marquera et qui fera beaucoup parler de lui.
On peut imaginer des autres éditions pour sensibiliser tous les ans et faire un rappel, parce que sensibiliser une fois comme ça, il peut y avoir d'autres artistes qui veulent participer à cette émission et faire une édition tous les ans par exemple.
Pourquoi pas, mais c'est pas moi qui produis le programme, donc j'ai pas les rênes, et on va déjà mettre ces deux-là à l'antenne et on verra après.
On verra comment ça marche. Tous les soirs, on te retrouve aussi dans C'est quand loup. Ça fait 2 saisons que tu partages l'affiche avec Nicolas. Là aussi, je pense que tu dois te taper des bonnes barres de rire quand même.
Ah bah, de toute façon, c'est le leitmotiv de ce programme. Donc, c'est que du bonheur. C'est une bulle de bonheur quotidienne. Et j'adore ce garçon.
Et ça, c'est à 20h50 tous les soirs. Alessandra, merci d'avoir été avec nous pour nous en parler. Vendredi, c'est Star Anus, et à 21h05, juste après C'est quand loup sur TF1.
Merci.
Merci à toi.
J'ai les jambes qui tremblent, j'ai les mains qui tremblent, j'ai tout qui tremble. Plus le stress augmente et plus on se dit mais dans quelle aventure je me suis lancée.
Là, il va falloir se mettre à poil devant 1000 personnes.
15 stars se déshabillent pour la bonne cause.
C'est nu nu ou
C'est nu nu nu.
Ah ok, d'accord.
Elles ont 3 semaines pour préparer un show au Lido, chorégraphié par Chris Marquez.
Allez !
Quand j'ai regardé la choré, je me suis dit, qu'est-ce que tu viens foutre là, quoi ?
Réussiront-elles à se mettre à nu devant 1000 personnes ?
Je suis pas à l'aise de me mettre nu comme ça devant tout le monde.
Star à nu, prochainement sur TF1.
Et on va donc se retrouver dans quelques instants pour évoquer bien notre deuxième coup de cœur ciné cette semaine. Le film sortira le 5 février en salle, ça s'appelle Adam. C'est un film à réessayer que l'on va découvrir avec Marianne Touzani, sa réalisatrice. Alors surtout, eh bien restez avec nous, nous allons découvrir ce film ensemble qui a été pour nous un des coups de cœur du festival du film francophone d'Angoulême. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé pour la dernière partie de notre émission.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on va parler de Adam, c'est notre coup de cœur ciné cette semaine, et on a la chance d'avoir eh bien, sa réalisatrice, Mariam Touzani, qui est avec nous. Bonjour Mariam.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Premier film, premier long métrage pour vous. En quelques mots, ça fait quoi de voir eh bien, un premier bébé éclore au public dans 2 jours comme ça ?
C'est très émouvant, c'est vraiment très émouvant parce que c'est un film que j'ai porté en moi pendant très longtemps. C'est une histoire que j'ai portée en moi pendant très longtemps, et de le voir justement sortir, rencontrer un public, voir des réactions, c'est quelque chose que je ressens de manière très émotionnelle en tout cas.
Alors l'histoire en quelques mots, on va planter un petit peu le décor ensemble Mariam.
Bah, l'histoire d'une rencontre entre 2 femmes, une jeune mère célibataire qui arrive de la campagne, enceinte d'un enfant dont on ne connaît pas le père, et qui finit par être accueillie dans la vieille médina de Casablanca par une jeune veuve qui vit seule avec sa petite fille de 8 ans, recluse chez elle, qui s'est complètement fermée à la vie depuis que son mari est mort. Et c'est le chemin que ces 2 femmes vont faire ensemble. Donc pour d'un côté redécouvrir la vie et aimer la vie, et de l'autre côté accepter la vie.
C'est une histoire de destin finalement ?
Absolument, c'est une histoire de destin. Je crois beaucoup au destin, je crois beaucoup à ce que la vie peut nous offrir de cette manière-là, et c'est sûr, c'est une histoire de destin.
Où est partie l'idée de départ de cette histoire ?
Alors, moi, je dirais pas que c'était une idée de départ, mais un sentiment, un besoin de raconter une histoire que j'ai vécue, parce que en rentrant de l'université, j'ai passé du temps chez mes parents. Un jour, une jeune femme enceinte, un peu comme Samia dans le film, à 8 mois et quelques de grossesse, est venue taper à notre porte, totalement désemparée, en cherchant de l'abri. Et donc, mes parents l'ont accueillie, et moi, voilà, j'ai vécu tout ça avec elle jusqu'au moment où elle a abandonné son enfant, elle l'a donné en adoption. Et pour moi, c'était bouleversant, ça m'a profondément marqué. Et beaucoup d'années plus tard, en devenant mère moi-même, j'ai commencé à écrire parce que j'ai ressenti le besoin justement de lui donner une voix aussi.
Vous avez signé le scénario aussi, hein?
Oui, j'ai écrit le scénario aussi. Mon mari, Nabil Ayouch, qui est réalisateur aussi, a collaboré à l'écriture. Il a été là, il m'a écouté, il a lu avec moi, il m'a conseillé, m'a accompagné, m'a proposé des choses, voilà.
Votre héroïne, Lumna, c'était une évidence tout de suite. Comment vous l'avez trouvée, Lumna ?
Alors, Lumna Azabal, je la connaissais déjà. Et puis, j'avais beaucoup d'admiration pour son travail pour de comédienne. Et voilà, quand j'ai fini d'écrire, j'ai pensé à elle. Et on en a parlé justement avec Nabil. Et voilà, je l'ai rencontrée. Et je me suis très rapidement rendu compte qu'elle avait tout ce que je cherchais pour incarner ce personnage. C'était une évidence.
Est-ce que quand on écrit sur le papier, c'est assez souvent ça ? On a des scènes qui peuvent nous paraître des fois compliquées à mettre en scène. Coucher sur le papier, c'est une chose, mais après, la mettre devant la caméra, c'en est une autre. Est-ce qu'il y a eu une scène comme ça qui, pour vous, vous semblait peut-être difficile et a été facile, ou le contraire ? Une scène qui paraissait évidente a été très compliquée à mettre en boîte.
Alors oui, on a eu dans les deux sens, justement, des choses, des scènes que je pensais compliquées et qui l'étaient pas. Notamment des scènes, vous savez, c'est un film très intimiste, c'est un film qui est vraiment dans le détail. Moi, je fais très attention au détail. Donc oui, quand on écrit le détail, c'est une chose, mais quand on le filme, c'est autre chose. Donc oui, il y a des moments qui ont été, qui aurait pu paraître simple, mais qui l'était moins. Et comme tu le disais, oui, dans l'autre sens aussi, évidemment.
Tourner uniquement en décor naturel au Maroc ?
Oui, tourner uniquement dans des décors naturels. Évidemment, un décor qu'on a retravaillé avec la chef décoratrice, parce que j'avais des choses très précises en tête par rapport à ce que je voulais. C'est un film qui est un presque huis clos, et je voulais vraiment un univers très particulier. Donc, comme je suis vraiment dans le détail, j'ai aussi cherché à recréer ce que j'avais imaginé en termes de texture, de couleur, d'espace, de mouvement à l'intérieur, parce que quand tout se passe dans un espace comme ça fermé, je pense que ça prend encore plus d'importance.
On va écouter la bande-annonce. Adam, ça sort le 5 février au cinéma. On écoute. De retour dans Chut, on écoute la télé. Adam, le film à ne pas rater. C'est Mariam Touzani qui est avec nous, la réalisatrice. On disait décor naturel, on a parlé un petit peu de l'histoire de départ. Comment après s'est passé le tournage ? Est-ce que vous avez une anecdote de tournage à nous raconter un petit peu au Maroc ?
C'est vrai qu'on a tourné essentiellement en intérieur, mais quand on est sorti en extérieur, je me rappelle un jour, il y avait quelque chose d'assez drôle, parce que on avait l'une des actrices principales, donc Lumna et Nisrine, l'autre. Donc là, dans ce cas-là, c'était Nisrine qui portait une djellaba bleu ciel. Elle était avec son gros ventre de femme enceinte dans la médina. Et à un moment donné, il y a une autre femme qui s'approche d'elle, et elle était habillée exactement pareil, la même couleur de djellaba, un foulard très similaire, et elle était enceinte. Mais vraiment enceinte. Et donc, du coup, c'était très drôle, parce qu'elle l'a regardée au début, après elle s'est approchée d'elle, et elles ont commencé à se parler, et elle pensait qu'elle était vraiment enceinte. Donc c'était assez drôle. Après, oui, il y en a eu d'autres, des anecdotes.
Est-ce que ça vous donne des idées, maintenant que le film va appartenir au public dans deux jours? Est-ce que vous avez déjà des idées pour d'autres films, d'autres histoires?
J'ai pas d'idée, parce que j'aime pas réfléchir les choses en amont. C'est vraiment mon ressenti qui me guide. Et là, oui, en effet, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de moi, qui commencent à bouger, et j'aime me laisser porter parce que je ressens. Donc j'aime pas me projeter, mais je sais qu'il y a des choses qui
forcer,
vont.
Quoi.
Oui, je sais qu'il y a des choses qui vont à un moment donné émerger, parce qu'elles doivent sortir et qu'elles le feront.
Moi, j'en suis sûr. En tout cas, ça va donner lieu certainement, eh bien, à plein d'autres choses par la suite. Alors, c'est un film qui a trois pays qui coproduisent, hein, puisqu'il y a la France, le Maroc et la Belgique. Moi, je suis curieux de savoir un peu comment le Maroc accueille un tournage comme ça, coproduit avec la France et la Belgique, qui n'est pas un film purement marocain. Est-ce que l'accueil est le même?
Si, si, l'accueil est le même. L'accueil est bon parce qu'on est, très ouvert.
Les autorisations sont faciles à avoir pour tourner. Comment ça se passe là-bas?
On dépose le scénario et puis là, j'ai eu aussi une avance sur le film de la part du centre cinématographique marocain. Et puis derrière, oui, sur la base du scénario, on a une autorisation de tournage, donc on n'a pas eu de soucis du tout par rapport à ça.
Le Maroc aime le cinéma, voilà. Ça, c'est en tout cas une belle chose et il y a plein de belles choses qui s'y font. Mariam, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là maintenant pour terminer? Beaucoup de succès, beaucoup de spectateurs en salle.
Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Ah, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est de pouvoir transmettre un ressenti, une émotion, un regard.
Merci beaucoup, Mariam.
Merci beaucoup à vous.
Merci. Et à très bientôt. Et Adam, ça sort donc le 5 février au cinéma.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et on va se retrouver donc lundi prochain avec une large page de cette émission consacrée à la sortie du film La Dernière Vie de Simon à cette occasion. Nous recevrons Léo Carman, le réalisateur, ainsi que Camille, Clarisse, Martin Carman, Benjamin Voisin et Sabrina Bicarine qui seront avec nous pour en parler. Large partie donc consacrée également à L'Archer Noir, le téléfilm diffusé le 8 février prochain sur France 3. À cette occasion, le réalisateur Christian Guérinel sera avec nous, accompagné des deux comédiens principaux, Laurent Ornac et Hélène Déji. Nous consacrerons également une page au Festival des créations télévisuelles de Luchon qui ouvrira ses portes du 4 au 8 février prochain. De belles choses en perspective, vous l'avez compris, lundi prochain. Ensuite, on écoute la télé.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute On Écoute La Télé.
Sans oublier bien sûr vos applications sur iPhone et Android Chute On Écoute La Télé. Moi je vous retrouve demain sur Attitude à 9h08, 11h08 et 13h08 pour les quotidiennes. Pour la grande hebdo de Chute On Écoute La Télé, on rediffuse celle-ci demain à 19h. Et puis bien sûr je vous retrouve lundi pour une inédite à partir de 13h. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée à l'écoute de nos programmes.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr. Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.